Alors bien sûr, ce matin, un peu, on va dire, atypique, puisque déjà, on n'est pas beaucoup, c'est l'été, beaucoup sont partis, Dieu voulant, petit à petit, cette semaine et la semaine prochaine, tout le monde commencera à revenir par la grâce de Dieu. Je me suis dit aujourd'hui un peu atypique, en même temps j'espère que la prédication sera quand même quelque chose que Dieu va utiliser, je suis convaincu que oui, dans notre vie à chacun. Alors, en réfléchissant donc cette semaine, et c'est quelque chose qui me travaille un peu depuis quelque temps, c'est notre approche lorsque nous parlons à Dieu. Et je me suis dit, en m'examinant moi-même, et je me dis, je suis peut-être pas le seul, peut-être je suis un peu étrange comme ça, mais je pense que non. Je pense que tous, on est un peu comme ceci, à cause de notre arrière-plan, à la fois peut-être religieux ou autre. Lorsque nous nous approchons de Dieu dans la prière, lorsque nous parlons avec Dieu, nous avons une certaine conception de comment il nous reçoit, de comment nous devons être pour lui parler. Et quelque part, je me dis, on est parfois coupable d'essayer de nous faire bien, de donner quelque part une bonne impression à Dieu lorsque nous venons à lui dans la prière, que ce soit la prière privée, lorsqu'on est seul avec Dieu, que ce soit dans la prière publique, lorsque nous nous approchons de Dieu, on n'est peut-être pas tout à fait honnête avec lui, peut-être pas tout à fait honnête avec soi, et je m'y reconnais. Il arrive que par moments, j'emploie certaines phrases et tout, sans vraiment réfléchir ou sans vraiment que ce soit exactement ce que je pensais, mais je sais que c'est la chose à dire, alors je le dis. Et lorsque nous regardons la parole de Dieu, presque depuis le début, lorsque nous voyons comment Dieu, il écoute et comment il répond aux gens qui s'adressent à lui, je suis convaincu que c'est bien différent de ce que nous pouvons penser la plupart du temps. Et j'en veux pour preuve un premier passage, ce ne sera pas la peine d'y tourner, vous le connaissez, dans le Jardin d'Éden. Un des premiers entretiens que Dieu il a avec Adam, c'est suite à la chute, Adam et Ève viennent de pécher, Dieu arrive et puis il demande à Adam, où es-tu ? Adam lui répond. Et puis Adam s'en prend un peu à Dieu. Et c'est assez surprenant. Il dit, Dieu, la femme que toi tu as mis à mes côtés, c'est elle qui m'a séduit et j'en ai mangé. Donc, il accuse Dieu quelque part. C'est assez impressionnant. L'audace, on pourrait dire. Mais quelle est la réponse de Dieu ? Est-ce qu'il dit, mais Adam, qu'est-ce que tu dis ? Non, mais tu oses quand même me juger, tu oses m'accuser de cela ? Non, 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 non. Bon, Dieu condamne le péché et Dieu juge, bien sûr, mais Dieu n'est pas du tout sévère dans ce passage, c'est assez impressionnant. Et puis, petit à petit, alors qu'on avance dans la Bible, histoire après histoire, chaque entretien que les personnes ont avec Dieu, on voit qu'au lieu d'être sévère, comme parfois on présente Dieu, non, Dieu n'est pas sévère. Il est juste, il dit ce qu'il faut dire, mais Dieu n'est pas sévère dans ce cas. Je pense à Moïse, cet homme dont je compatis beaucoup, qui était à la tête de cette foule de gens à la fois désobéissants, ingrats, qui ne voulaient qu'à leur tête. À un moment donné, Moïse s'en prend à Dieu un peu, se dit « Mais Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait ?» Et Dieu ne réagit jamais avec colère avec Moïse. Non, il agit avec bonté, avec compassion. Et puis, nous arrivons au passage sur lequel j'aimerais attirer votre attention aujourd'hui, dans le livre des Juges. Puisque un personnage que nous connaissons vraiment très bien, c'est le personnage de Gédéon. Et on parle beaucoup de Gédéon et des principes que nous pouvons apprendre de sa vie. Mais aujourd'hui, j'aimerais plus mettre l'accent sur Dieu dans cette histoire, parce que Gédéon est quelqu'un avec lequel, je suis convaincu, chacun de nous, on aurait vite eu marre. On se dit, mais tu n'as pas encore appris. Non, mais quand même, Gédéon, on aurait voulu le secouer un peu, on aurait voulu lui donner peut-être une claque. Et on va voir que ce n'est pas du tout comme ça que Dieu agit avec lui. Et ce matin, tout comme Gédéon, je suis convaincu que nous avons besoin d'être honnêtes avec Dieu. Alors, le livre des Juges, chapitre 6, au verset 11, nous sommes en plein période donc, de ce cycle d'oppression, de délivrance, de péché du peuple d'Israël. Vous connaissez bien cette histoire. Verset 11, Juges chapitre 6, « Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térabinthe d'Orphra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. » Alors, on pourrait dire beaucoup de choses sur l'ange de l'Éternel. Qui est-ce? Est-ce que c'est réellement Jésus-Christ? Est-ce que c'est un ange? Ce n'est pas la question à laquelle nous voulons apporter des réponses ce matin, mais on voit manifestement que cet ange est là dans le but d'interpeller Gédéon, de transmettre le message de Dieu. Et Gédéon, cet homme qui n'a rien d'extraordinaire en lui, bien sûr, c'est un peu comme Monsieur Tout-le-Monde. Et verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut donc à Gédéon et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Et j'essaie de me mettre à la place de Gédéon. Si j'avais eu une vision d'un ange qui est venu me dire, « Robert, toi, vaillant héros de l'Éternel, » j'essaie de penser quelle serait ma réaction. La réaction de Gédéon est quand même assez spectaculaire. Surtout lorsqu'on voit que pratiquement chaque autre fois qu'un ange apparaît à un individu, la première réaction, c'est la peur. Il tombe face contre terre. Mais Gédéon, non. Qu'est-ce qu'il dit? La première chose de sa bouche, c'est il accuse Dieu. Il s'en prend un peu à Dieu. Verset 13, Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Et je lis ça et j'ai presque peur pour Gédéon. Je me dis quand même, si on tient un tel langage devant Dieu, attention, les éclairs vont tomber, il risque la mort, quel irrespect, quel manque de foi. Mais Dieu, il sera obligé de punir Gédéon. Quelle audace pour Gédéon de croire que Dieu les a abandonnés, que Dieu est indifférent au sort de son peuple. Et pourtant, ici, Gédéon exprime ce qui était au fond de lui. Si Gédéon s'exprime ainsi, s'il emploie ces mots, s'il a ce sentiment presque d'amertume, « Mais Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu as fait certaines choses dans le passé, mais aujourd'hui, tu ne fais plus rien. » Si Gédéon il a ces sentiments en lui, ce n'est pas pour rien. Il traversait des choses dures, il y avait l'oppression des Madianites. Il y avait des besoins, il y avait la famine, il y avait la persécution. Gédéon ne comprenait pas. Et au sein de tout ce qui s'est passé ici, Gédéon se dit, avec tout ce que je vois autour de moi, la conclusion à laquelle j'arrive, c'est que Dieu nous a abandonnés. Et lorsqu'il a l'occasion de parler au messager de Dieu, il est honnête. Il n'essaie pas de mettre des formes, de dire les choses telles qu'il faut, ou même de cacher ses sentiments. Non, en fait, il est tout à fait honnête. Même si ce qu'il dit n'est pas bien, il est honnête. Et lorsque nous voyons comment Dieu va répondre, c'est quand même assez impressionnant. Pas du jugement. Pas d'éclair qui tombe et puis qui le détruit. Non. Verset 14, c'est bouleversant. L'Éternel se tourna vers lui et dit, donc à travers ce messager, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» On se dit, mais Gédéon, il n'est pas du tout dans une position d'aider qui que ce soit. Ben, il a ses propres problèmes, n'est-ce pas? Manque de foi. Il ne connaît pas vraiment Dieu comme il faut. Il a certaines connaissances par rapport à Dieu, mais quelque part, il y a pas mal de manquements chez Gédéon. Et pourtant, Dieu lui dit, ben, voilà, j'ai une mission pour toi. Et j'ai quelque chose pour toi à accomplir. Alors, va, fais cela et je serai avec toi. Au lieu d'abandonner Gédéon en disant, ah, ben, apparemment, tu n'es pas à la hauteur de ce que j'ai prévu pour toi, je vais aller vers quelqu'un d'autre. Ce que nous, je suis convaincu, nous aurions fait. Non, Dieu dit, ben, je serai avec toi. Et puis, dans les versets qui suivent, Gédéon va essayer de mettre tant d'obstacles, un peu comme Moïse d'ailleurs. Dieu confie une mission et Moïse, tout comme Gédéon, va dire tous les moyens et toutes les raisons pour lesquelles il ne peut pas le faire. Et pourtant, Dieu continue. Et face à la peur, si nous descendons au verset 22, Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et apparemment, il craint de mourir, puisque au verset 23, l'Éternel lui dit « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras point. » Et lorsque nous voyons comment Dieu réagit avec Gédéon ici, c'est tout le contraire de ce qu'on pourrait penser, n'est-ce pas? C'est tout le contraire de parfois l'image de Dieu que nous avons à l'esprit ou que nous présentons parfois ou qui nous est présentée. Souvent, on pense à Dieu comme un Dieu sévère, un Dieu qui a le bâton au-dessus de notre tête et dès qu'on fait le moindre écartement, paf, ça va tomber. Et lorsque nous revenons aux Écritures et on commence à comprendre qui est Dieu, on comprend que oui, Dieu est juste et Dieu juge le péché, absolument. Sinon, il ne serait pas Dieu. En même temps, Dieu n'est pas ce Dieu sévère qui est prêt à nous taper sur la tête, nous faire du mal à chaque fois que nous nous écartons de lui. Ici, avec Gédéon, on voit que Dieu est patient. Et c'est quelque chose, que ce soit avec Gédéon, que ce soit avec Moïse, Job, Adam, et vous pouvez prendre tous les personnages dans la Bible, jusque nos jours, Dieu est patient. Et parfois, on a cette impression qu'on lasse Dieu un peu. Dieu est un peu lassé de nous. Que lorsque nous péchons ou que nous venons vers lui pour demander pardon ou même on vient vers lui pour demander quelque chose, parfois on se dit, mais j'ai déjà demandé pour ça. Dieu, est-ce qu'il va avoir marre un peu d'écouter ce que je lui dis? Dieu, est-ce qu'il n'est pas lassé d'entendre ça? C'est déjà la énième fois que je viens demander ceci ou cela, ou demander pardon pour tel ou tel péché, je n'arrive pas à avoir la victoire. Et Dieu, il doit être là en train de dire, mais tu n'as pas encore appris, mais je suis tellement déçu de toi. Et tout ça, nous ne voyons pas dans la Bible. Non, Dieu, il comprend. Et il est patient. Et toutes les fois que nous venons vers lui pour demander pardon, toutes les fois que nous venons devant lui pour demander quoi que ce soit, confesser n'importe quel péché, demander en faveur de n'importe quelle personne, Dieu va entendre. Et que ce soit la première fois, que ce soit la centième fois, millième fois, combien de fois il le faut, Dieu va écouter et Dieu va être patient. Et quel encouragement, quel réconfort pour nous de savoir que Dieu est patient avec nous. C'est pas simplement avec les autres. Ah oui, c'est sûr, Dieu sera patient avec tel ou tel, parce que cette personne est toujours obéissante, ce qui n'est pas tout le cas, mais bon, on peut penser, voilà, à telle ou telle personne spirituelle. Oui, bien sûr, Dieu va être patient avec cette personne, mais bon, moi, qui suis-je, Dieu ne sera pas patient avec moi. Mais non, Dieu est patient avec chacun de ses enfants. Et lorsque nous comprenons la patience de Dieu, bah, cela va nous aider à être honnête avec lui. Parce que peu importe ce que nous disons, peu importe ce que nous avons fait, bah, ça ne changera rien à la patience de Dieu. Non pas que nous avons la liberté et qu'il faut faire n'importe quoi, bien sûr. Mais cette patience de Dieu doit nous stimuler à aller vers lui en toute honnêteté. Si nous craignons que Dieu ne sera pas patient avec nous, bah à ce moment-là, oui, on va peut-être pas dire les choses exactement comme il faut, on va essayer peut-être de cacher certaines choses. Mais non, Dieu est patient et Dieu veut entendre. Alors, lorsque nous descendons au verset 33, pour continuer un peu sur cette idée de la patience de Dieu, et je dis d'avance qu'aucun de nous, je mets moi-même là-dedans, aucun de nous ne serait aussi patient avec Gédéon que Dieu l'a été. Ici, Dieu sera tellement patient avec Gédéon, et comme j'ai dit, ça doit être source de réconfort pour nous. Nous descendons au verset 33, où nous voyons tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent, ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jisréel. Alors là, la guerre se prépare, comme nous le savons. Verset 34, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel, il sonna de la trompette, et Abiezer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Aser, dans Zabulon, dans Nephtali, qui montèrent à leur rencontre. Et là, on se dit, bah, c'est formidable. Gédéon, inspiré par Dieu, dirigé par Dieu, il est revêtu de l'Esprit, bah, il appelle les hommes d'Israël à aller combattre contre les ennemis de Dieu. Et là, il donne l'impression que tout va bien, qu'il a l'assurance qu'il va de l'avant, gloire à Dieu, on va à la bataille, Dieu est avec nous. Et là, verset 36, Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, » de nouveau, il vacille un peu dans sa foi. « Voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Et si nous étions à la place de Dieu, on se dit, mais Gédéon, je t'ai dit que j'allais te donner la victoire. Il faut me faire confiance. Et c'est vrai, Gédéon aurait dû faire confiance. Mais ici, Gédéon se dit, bon, Dieu a parlé, Dieu m'a donné cette mission, il m'a donné tout ce qu'il faut pour accomplir cette mission, mais quand même, j'ai besoin d'un plus. J'ai besoin d'un signe supplémentaire. Et la réponse à laquelle on s'attend, c'est Dieu qui dit, non mais Gédéon, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai déjà donné tout. Qu'est-ce que tu as besoin de plus? Non, mais cette demande que tu fais, bah, rentre chez toi, bah, je ne veux pas entendre ça. Maintenant, lorsque nous regardons, verset 38, il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée qui donna de l'eau plein une coupe. Bah, Dieu le fait! Dieu lui donne ce signe. En plus de toutes les autres choses que Dieu avait fait, là, Dieu donne ce signe. Il n'avait pas besoin de le faire. Mais parce qu'il voulait fortifier Gédéon, parce qu'il est Dieu, se dit, je vais répondre à cela. La patience de Dieu, sa bonté, Alors, on pourrait s'arrêter là. Et Gédéon aurait dû, à ce moment-là, dire, bon, d'accord, Dieu m'a donné sa promesse. Là, il vient de me donner un signe. Eh bien, allons-y. De l'avant, on y va. Dieu est avec nous. Ah ben non, vous le savez, verset 39, et n'est-ce pas un peu comme ça que souvent nous nous approchons de Dieu? Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi. N'est-il pas vrai que parfois on craint la colère de Dieu, son jugement, qu'il est déçu de nous? Et je ne parlerai plus que cette fois, je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et là, on se dit, bon, d'accord, la première signe, c'est bon. Ok, Dieu l'a fait. Mais là, Gédéon, tu demandes de trop. Quand même, t'as manque de foi. Ça frôle irrespect ici, la désobéissance. Dieu t'avait dit d'aller, il t'a donné sa promesse. Il y a ce premier signe qui est donné. Que demander de plus? Et le verset 40. Dieu fit ainsi cette nuit-là. Dieu lui a répondu. Dieu l'a fait. Et nous connaissons si bien cette histoire qu'on se dit, mais bien sûr, ben c'est l'histoire de Gédéon, bien sûr, Dieu va le faire. Mais lorsque nous nous mettons à la place de Gédéon, lui, il ne savait pas que Dieu allait le faire. Il s'adresse à Dieu, honnêtement, il a peur, il manque d'assurance, et il demande à Dieu de faire quelque chose pour le fortifier. Et je suis convaincu que si on était devant Gédéon, on n'aurait jamais eu autant de patience que Dieu. On aurait dit à Gédéon, mais fais confiance à Dieu. Tu as ses promesses, il suffit de lui faire confiance, surmonte ta peur, tu n'as besoin de rien d'autre. Et Dieu sait que Gédéon a besoin en fait de ces signes. Et en voyant comment Dieu est patient et comment il traite avec Gédéon, ça doit nous encourager que Dieu fait exactement la même chose pour nous. Non pas qu'il va nous donner des signes à chaque fois, c'est sûr. Mais Dieu est patient avec nous. Et nous pouvons, lorsque nous nous adressons à lui, demander des choses. Avoir quelque part de l'audace. De demander de grandes choses, même des petites choses. D'être honnête avec lui. Ici, Gédéon ne se dit pas, bon, tout va bien, à l'extérieur, je montre toute cette confiance, alors qu'au-dedans de moi, j'ai peur comme pas possible. Il n'essaie pas de cacher ça de la part de Dieu, non, il s'ouvre complètement à Dieu, et sur la base de cela, il fait ses demandes à Dieu, et Dieu lui répond. Dieu est patient, et Dieu est compatissant. Lorsque nous regardons cette histoire, Dieu ne dit jamais à Gédéon, allez, c'est assez, ça suffit maintenant, vas-y. Parce qu'il n'a même pas fini. Regardez, Juges chapitre 7, donc le chapitre suivant. Dieu s'est déjà révélé à Gédéon, lui a déjà donné des promesses, a déjà accompli ses deux signes avec la toison, mais ce n'est pas fini. Chapitre 7, à partir de verset 9. Là, on est la veille de la bataille. Verset 9, l'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains, » et là, j'ai presque rigolé à chaque fois que j'ai lu ça, « Si tu crains, » il est évident que Gédéon, il a la crainte ici. Il est évident. Gédéon ne sait pas du tout comment il faut se comporter, il ne sait pas du tout comment ça va se passer. Si tu crains, oui, bien sûr, Gédéon craint, mais Dieu le sait. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Et cela continue jusqu'au verset 15 où ils entendent ces deux gardes qui, en fait, racontent ce songe. Et là, Gédéon entend tout cela et se rend compte que Dieu va réellement accomplir ce qu'il a dit. Et là, on se dit, mais bien sûr, Dieu l'avait dit. Dieu l'a dit, il faut croire. Et ça, c'est vrai, bien sûr. Mais ici, Dieu sait que Gédéon, il a besoin de quelque chose de plus, en fait. Et Dieu lui accorde cela. Dieu ne dit jamais à Gédéon, bah, tu devrais avoir déjà grandi assez pour ne pas avoir besoin de ça. Tu aurais dû déjà avancer assez pour ne plus être à ce stade. Non, Dieu est compatissant. Malgré toutes ses demandes, et Gédéon va en faire beaucoup, malgré toute sa crainte, il en a bien sûr, toutes ses hésitations, Dieu n'est jamais dur avec Gédéon. Moi, je serais dur avec Gédéon. Il se comporte un peu comme un enfant dans la foi, alors qu'il aurait dû agir complètement différent. Non, Dieu n'est pas dur avec Gédéon. Il ne se dit jamais, bah, j'en ai marre, je vais utiliser quelqu'un d'autre. Non, Gédéon, tu demandes de trop, ça suffit maintenant, va-t'en, fais ce que je t'ai dit. Non, Dieu est compatissant, il est patient, il est bon. Et ce même Dieu qui a agi ainsi avec Gédéon, agit de la même façon envers nous. Il est patient avec nous. Il est compatissant. Il est bon. Et lorsque nous adressons à Dieu, c'est dans cette optique que nous devons être. Et c'est sur la base du caractère de Dieu que nous pouvons être honnêtes avec lui. Et en réfléchissant un peu sur comment Gédéon ainsi que Job, Adam, Moïse, toutes ces personnes qui se sont adressées à Dieu dans la Bible, avec honnêteté, je me dis, mais lorsque moi je prie à Dieu, est-ce que je suis aussi honnête? Et si je ne le suis pas, ben pourquoi? Et cette pensée m'est revenue à l'esprit, bien sûr, Dieu sait déjà toute chose. Dieu connaît nos pensées. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, par moments, nous essayons de cacher les choses de Dieu, alors que c'est la chose la plus futile au monde. Parce que Dieu sait déjà nos pensées. Le psaume 93, le psaume 139, nous montre que Dieu sait toutes choses. Dieu connaît nos pensées même avant que nous les ayons. Alors essayez de réfléchir là-dessus quelques instants. Dieu sait nos pensées avant même que nous les ayons. Et nous chercherions à lui cacher quoi que ce soit. Honte à moi. Honte à nous. Et il est vrai que devant les hommes, bah, parfois on présente une certaine apparence. On veut donner l'impression que tout va bien, qu'on n'a aucun souci, que tout marche. Et bien sûr, donner une bonne apparence, en soi, rien de mal. On ne veut pas donner l'impression que ça va toujours mal. Mais, il est vrai, nous présentons une certaine apparence. Lorsqu'on vient à l'église, voilà, on se tient bien. Et cela est normal, puisqu'on vient dans la maison de Dieu, on vient pour adorer Dieu. Mais, est-ce qu'on est complètement honnête? Et, au-delà de cela, si nous ne sommes pas honnêtes avec les autres, comment est-ce que nous pouvons penser être honnêtes devant Dieu? Dieu connaît déjà nos pensées, alors pourquoi ne pas être honnête avec lui? Il n'y a rien que nous puissions dire qui va choquer Dieu. Vous savez, parfois je lis, j'entends des choses et ça me choque. Je regardais hier, enfin, j'ai pas regardé, mais je lisais par rapport à plusieurs manifestations qui se sont déroulées aux États-Unis. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, il y avait une manifestation pour ce qu'on appelle la suprématie des Blancs, en fait. Et qu'un homme avait même pris sa voiture et rentré dans cette foule. Il y avait un mort, des blessés, enfin, c'est horrible, horrible. Et en tant que chrétien, voilà, ça me choque que les gens agissent ainsi. Quand j'entends ce qui se passe dans d'autres coins du monde, bah, ça me choque. Je me dis, c'est pas normal, ça ne devrait pas se faire. Quand je vois certaines choses, ben oui, ça me choque parce que c'est le mal, parce que c'est incompréhensible. Et nous sommes choqués. Mais Dieu n'est jamais choqué. Peu importe ce que je dis, je ne pourrai jamais choquer Dieu. Moi, je pourrais vous choquer. Vous pouvez me choquer. Mais nous ne pouvons jamais choquer Dieu. Et ça fait que nous ne devrions jamais, et comprenez-moi bien, nous ne devrions jamais nous retenir devant Dieu. Gédéon ici, on a l'impression qu'il ne se retient pas. Il dit ce qu'il pense. Il n'a pas toujours raison, mais il dit ce qu'il pense. Et Dieu le recadre, et Dieu s'occupe de lui. Mais il dit ce qu'il pense. Un autre bel exemple de cela, c'est Job. Vous lisez le livre de Job, et on se dit, mais Job, il n'a pas peur. Il n'a pas peur que Dieu va le juger. Avec ce qu'il dit, il s'en prend là, lui aussi à Dieu en disant, mais Dieu, tu es absent. Dieu, tu ne me réponds pas, je veux une seule chose, c'est de pouvoir te parler et que tu m'écoutes et que j'ai l'assurance que tu vas répondre. Et Job, oui, il s'en prend à Dieu. Et encore une fois, on a presque peur pour lui que Dieu le juge. Mais non, Dieu ne le juge pas du tout. Dieu est dur avec les amis de Job, mais pas avec Job. Et lorsque nous comprenons que nous ne pouvons pas choquer Dieu, ben nous pouvons être complètement honnêtes, ouverts, libres devant lui. Et bien sûr, parce que c'est Dieu auquel nous nous adressons, il faut qu'il y ait du respect. Mais nous pouvons, et la Bible nous dit, nous devons nous adresser à Dieu en toute simplicité, en toute honnêteté. Et ici, Gédéon s'ouvre à Dieu. Et voici notre exemple. Alors, j'aimerais apporter une précision que ici, les interactions de Gédéon et même de Job, Adam, Moïse, très souvent, ce que nous lisons dans la parole, ce sont des interactions seul à seul avec Dieu. Donc, ces personnes sont seules avec Dieu. En général, il n'y a personne d'autre autour pour entendre. Parce que si nous ne pouvons pas choquer Dieu, ben, nous pouvons choquer les autres. Et notre franchise, lorsque nous sommes seuls avec Dieu, ben, pourrait choquer d'autres. Et lorsque nous sommes dans un contexte collectif, à ce moment-là, en effet, nous devons faire attention à ce que nous disons. Non pas qu'à ce moment-là, on est plus honnête et qu'on présente seulement une façade, mais nous devons faire attention parce qu'il y a d'autres qui écoutent. Et nous ne voulons pas être une pierre d'achoppement, nous ne voulons pas blesser des personnes, leur donner de mauvaises pensées. Donc, bien sûr, dans un contexte où nous sommes ensemble, bien sûr, il faut faire attention à ce que nous disons. Mais surtout lorsque nous sommes seuls avec Dieu, Dieu veut nous entendre. Dieu ne veut pas que on se prépare tout bien et qu'on dit tout juste comme il faut et qu'on attende d'avoir simplement les belles paroles et simplement dire les belles paroles. Non, Dieu veut, parce qu'il nous voit tels que nous sommes, il veut que nous soyons honnêtes dans notre prière envers lui. Et nous pouvons le faire lorsque nous nous rendons compte combien Dieu est bon, combien Dieu est patient, combien Dieu nous aime. Et que là où nous sommes à côté, lorsque nous disons des choses qui ne sont pas conformes à la Bible, lorsque nous disons des choses où c'est vraiment pas ça, bah Dieu va nous recadrer. Dieu va nous montrer par sa parole, par son esprit, que finalement, là, non, c'est pas bien. Mais lorsque nous venons devant Dieu pour confesser notre péché, et nous devons le faire régulièrement, lui parler de telle ou telle situation, lui faire part de notre lassitude, lui faire part de notre découragement, de lui faire part de notre colère, peut-être. Nous ne devons pas avoir peur de ça. De dire, ah, qu'est-ce que Dieu va penser de moi? Ben, il sait déjà. Il le sait déjà. Alors pourquoi le lui cacher? Ici, Gédéon, il a peur. Il ne sait pas trop quoi faire. Parfois, nous sommes découragés. Parfois, on a de mauvaises pensées. Parfois, on est en colère. Parfois, on a des pensées qui sont mauvaises, qui frôlent le péché. Et qu'est-ce que nous faisons à ce moment-là? Ah non, surtout, il ne faut pas que je le dise à Dieu. Pourquoi pas? Mais bien sûr, il faut le dire à Dieu. Parce que Dieu veut l'entendre pour pouvoir, par la suite, nous parler. Et nous manifester tout son pardon, tout son amour. Alors pour nous aujourd'hui, bien sûr, avec attention, avec respect, mais aussi avec assurance et quelque part de l'audace, nous devons être honnêtes avec Dieu. Et cela sous-entend qu'on lui parle, qu'on passe du temps dans la prière, seul. C'est très bien que nous prions ensemble le dimanche matin, le mardi soir, lorsque nous sommes ensemble, c'est formidable que nous prions ensemble. En même temps, cette prière privée, seule, avec Dieu, est quelque chose de très, très important. Et là, nous devrions nous ouvrir complètement à Dieu, sans peur, sans crainte d'être jugé de sa peur. Non, Dieu est bon. Et là où il faut que nous nous changions, il va nous rendre capables de le faire. Et en préparant ceci, je réfléchissais à un chant dans notre recueil, et nous n'allons pas le chanter, mais j'aimerais tout simplement vous lire les paroles, parce que c'est tellement approprié. Alors, écoutez, c'est le numéro 208, si jamais vous voulez soit le noter ou le regarder. Le titre de ce chant, déjà, c'est « Dis tout à Jésus ». Alors, le titre tellement approprié. Alors, écoutez, réfléchissez sur ces paroles. Appliquons-les à notre vie. Es-tu lassé, rempli de tristesse? Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Il voit tes yeux rougis par les larmes. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il connaît ton cœur, il sait tes alarmes. Si ton passé surgit comme une ombre, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il peut effacer tes péchés sans nombre. Et pour demain, ce que tu redoutes, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il est près de toi le long de la route. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre. Il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Ce chant qui exprime, je dirais, parfaitement ce que, en tant que chrétien, nous devrions faire. Et lorsque nous examinons notre vie, notre vie de prière, pouvons-nous dire, oui, je dis tout à Jésus? Ou est-ce qu'il y a des sujets qui sont un peu tabous? Où on dit, ah non, je ne peux pas vraiment prier pour ça, je ne peux pas vraiment exprimer telle ou telle chose. Et si, en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons, nous devons. L'exemple de Gédéon doit nous inspirer doit nous encourager. Si Dieu n'était pas dur avec Gédéon, pourquoi le serait-il avec nous? Non, il nous aime et il veut entendre. Il sait déjà et il s'attend seulement à ce que nous exprimions notre sentiment, nos pensées. Parfois, ces choses, nos pensées, nos désirs ne seront pas justes et il faut confesser cela. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu ne veut pas les entendre. Et Dieu, alors qu'on est honnête avec nous, alors qu'on est honnête avec lui, va nous transformer, va nous montrer, oui, je t'aime. Et ainsi, alors qu'on est honnête avec Dieu, on pourra commencer à être honnête avec les autres. Et lorsque nous sommes honnêtes, nous manifestons vraiment l'amour, nous agissons comme nous devons, comme Dieu attend à ce que nous agissions. Alors, cette semaine, posez-vous la question régulièrement. Suis-je honnête avec Dieu aujourd'hui? Et comment est-ce que je peux être de plus en plus honnête? Dieu, montre-moi là où je cherche encore à cacher des choses. Aide-moi à être plus honnête avec toi. Aide-moi à tout te dire, tout, comme ce chant le dit. Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, nous sommes devant toi et nous te louons pour l'exemple de Gédéon et à travers ta parole, ta bonté, ta patience, ta compassion envers les hommes, les femmes qui s'adressent à toi. Merci pour cet accès ouvert envers toi. Tu ne rejettes personne. Tu ne repousses pas. Mais tu accueilles, tu entends, tu réponds. Et nous te louons, Seigneur. Merci que tu interviens dans notre vie. Merci que tu es prêt, tu n'es pas indifférent. Et nous demandons ton aide dans notre prière, dans notre relation avec toi, d'être ouvert, d'être honnête, de te dire tout ce que nous avons sur le cœur. Tout ce que nous ressentons, tout ce que nous vivons, tout ce que nous pensons, aide-nous à être ouverts avec toi, aide-nous à te laisser nous transformer, à recevoir ton amour, ta bonté dans notre vie et ainsi de l'exprimer autour de nous. Qu'il soit évident que c'est toi qui le fais et que tu continues de nous transformer par ta puissance. C'est en ton nom que nous prions. Amen.